What is this, Connor?
Easy, old man. She's not hurt?
No. Not wounded, sir.
Great easy.
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conoscete?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Che non si fa che dice? Come fa che dice?
Bonjour à toutes et à tous les cinéphiles, bienvenue dans Cinémascope, le magazine qui ausculte l'actualité du cinéma en Sud-Ardèche. Un cinémascope placé sous les mots du poème et du poète Walt Whitman. Je suis vaste, je contiens des multitudes. On parle de vie grande et minuscule, de pseudo-philo, peut-être de poésie, autour des films Mission Impossible, Chuck of Life, Jeune Mère et au lit, et tout ça en délicieuse compagnie, comme toujours avec Alexis. Salut Alexis.
Salut tout le monde.
Cathy.
Salut Sophie, salut tout le monde.
Et Olivier, bonjour Olivier.
Bonjour tout le monde.
Et Olivier, mais non, et Sylvain, salut Sylvain.
Bonjour tout le monde.
Nous sommes parvenus à nous distinguer l'un de l'autre.
C'est vrai, vous étiez fusionnel.
Assez, oui.
Ah, très bien. Oui, il y a quelque chose. Physiquement, en tout cas, c'est très...
C'est frappant.
C'est frappant, oui. C'est frappant. Allez, on commence par un film qui frappe...
Ça se voit bien.
Qui frappe fort. Et ouais. Qui frappe très très fort, premier film.
Our lives are not defined by any one action. Our lives... are the sum of our choices.
Everything you are, everything you've done, has come to this.
When the need for certainty is absolute, and the odds are deemed impossible, the mission falls to him.
Should he choose to accept?
Eh oui, on commence par une petite leçon de philosophie. La vie est la somme de nos choix, dit-il, on dirait du Sartre.
Tout ce que tu as fait.
On dirait du Sartre, ouais. Mission Impossible, The Final Reckoning. Alors, au bout du compte, avec Tom Cruise de Christopher McQuarrie, bien sûr, le 8e épisode pour Ethan Hunt. Cathy. Cathy qui est enfin allée voir ce film pendant 2h50, plus de 2h50. Wow,
oui,
déjà
oui,
bravo.
Non, j'ai aucun mérite là-dessus. Dans tous les cas, je pense que les 1 800 000 entrées qu'a fait le film, ça prouve, même si c'est peut-être un chiffre un peu timide pour un film qui aura coûté 400 millions d'euros, pardon. J'ai aucun mérite à aller voir Mission Impossible parce que je suis une fan de toute façon à la fois de Mission Impossible et de Tom Cruise. Donc pour moi c'était un incontournable qu'il fallait que je voie absolument. Et j'ai attendu la version originale sous-titrée au navire pour pouvoir en profiter. Et donc là on est sur un épisode, on va dire, parce que comme c'est comme une série, on est sur un épisode qui va fermer la boucle.
Côte à côte. Pardon,
c'est-à-dire
non, je disais l'équivalent de 3 épisodes côte à côte. Non, 3 heures, enfin bref.
Oui, 3 heures, oui, bon, d'accord. Mais enfin, en tout cas, voilà, Mission Impossible démarre en 1996, Donc, on est sur 30 ans de cinéma et 30 ans de Tom Cruise qui, bien sûr, nous surprend de film en film parce qu'il va toujours sur une surenchère de cascade. Tout le monde sait que Tom Cruise n'est pas doublé dans la majorité des scènes qui sont dans les Missions Impossibles. Mmh. Et donc, oui.
Et là encore, il arrive à surprendre.
Ah bah là, il continue quand même à surprendre. Il fait des trucs de fou. Alors. Peut-être que quand on va souvent au cinéma et qu'on sait qu'il y a des effets spéciaux, on se dit on pourrait être un petit peu blasé et se dire on fait pas forcément la part des choses entre les films où les acteurs sont doublés et le film là où Tom Cruise ne l'est pas. Mais quand même, c'est quand même, enfin voilà, quand on sait qu'il a réellement fait ces scènes-là lui-même, c'est complètement dingue.
Il y a cette dimension artisanale.
Il y a cette dimension qui est intéressante, et comme on le disait en off tout à l'heure, on peut ne pas aimer Tom Cruise, on peut toujours lui reprocher sa part sombre avec la scientologie. Il n'empêche que c'est voilà, quelqu'un qui pèse dans le cinéma américain, que la Paramount qui a à nouveau produit et distribué le film grâce à Top Gun Maverick. Ils ont quand même fait carton plein il y a 3 ans, je ne sais plus exactement. Donc là, difficile de ne pas suivre quelqu'un qui a reboosté quand même l'année où le film est sorti, parce que c'était une pauvreté économique. Et Top Gun est arrivé et ça a fait tout exploser. Donc c'est quand même un mec qui pèse, on ne peut pas lui enlever ça. Il aime le cinéma, il aime la salle de cinéma, il défend ça et il veut des films sur grand écran, et il pense aux spectateurs et spectatrices, bien sûr.
C'est une des raisons du format de 3 heures, je crois. Il veut offrir des choses...
Mais c'est ça. Alors, c'est vrai qu'on peut, lui reprocher. Et là, c'est un film qui est extrêmement bavard, quand même, parce que comme il veut boucler toute cette série de films, il faut qu'on arrive à une espèce de conclusion, quand même. Hein. Donc, il va être officiellement celui qui doit sauver le monde, parce que il y a plus que lui qui peut le faire, parce que c'est une tête brûlée, parce que c'est un mec qui réfléchit pas trop et qui y va. Enfin bon, voilà, le personnage correspond en fait à l'élu. On pourrait le raccorder un peu à Matrix, ou effectivement Keanu Reeves, j'ai plus son nom dans le film, mais il est pas sûr d'être vraiment l'élu, mais bon, il faut qu'il y aille, quoi. Et ben là, c'est un peu pareil, quoi. C'est là, maintenant, on sait qu'il y a que lui qui peut faire en sorte que la Terre n'explose pas, quoi. Donc bon, ça pèse quand même un petit peu sur ses épaules, hein. Et nous, on est emportés par ça, en fait, hein. Mais bon.
Est-ce que c'est pas une question tout à fait peut-être bête, mais est-ce que c'est pas problématique, ça, que ce soit encore, qu'il y a encore des films où on considère que c'est un type qui doit sauver le monde? Je veux dire, pas collectif. Non, c'est vraiment une question.
Il y a du collectif derrière, parce que il y a toujours une équipe. En fait, c'est-à-dire qu'il y a un personnage qui est mis en avant.
Est-ce que l'équipe est présente dans celui-là?
Oui, l'équipe est présente aussi, bien sûr, dans celui-là. Et chaque maillon a son importance, en fait. Il y a des gens qui vont y rester. Il y en a qui vont être encore là après. Enfin, voilà, il y a un vrai enjeu. Alors après, on peut dire que c'est très américain, c'est encore les Américains qui vont sauver le monde. Enfin bon, évidemment, on peut aller dans ce genre de travers, c'est incontestable. Bon, voilà, moi j'ai peut-être pas le bon recul, parce que je suis fan quand même et de Tom Cruise et des Missions Impossibles. Je suis en train de revoir j'ai revu le premier. C'est pas du tout la même ambiance, en fait, hein. Ça, c'est vrai, ça a beaucoup évolué. Il a fallu qu'il se renouvelle. Les différents films qui ont été faits n'ont pas forcément marché aussi bien qu'ils auraient voulu. Il y a eu une espèce de fracture à un moment, et quand ils reviennent avec Protocole Fantôme, on passe dans une autre dimension. C'est un peu comme le James Bond et Skyfall. Il y avait une espèce de truc lancinant qui fonctionnait plus vraiment, et puis bim, il y a un renouvellement, autre réalisation, autre implication, et ça renouvelle le genre. Donc c'est vachement bien. Ça, c'est vachement important. Le seul bémol, c'est l'actrice, la Pomme Clémentif, qui est française d'origine, et qui était dans le précédent, et qui là, en fait, il a gardé, parce que je pense qu'il aime bien cette actrice. Mais alors, elle a quand même un petit rôle où, en fait, elle, alors qu'elle parle très bien anglais, elle parle que français dans le film, et par petites touches comme ça, pour dire des trucs tout à fait
insipides.
Ouais. Enfin, tu vois, des petites remarques comme ça. Et là, je me dis, mais je comprends pas, quoi. Enfin bon, elle s'est fait un kiff, parce qu'elle a tourné dans Mission Impossible. Mais là, franchement, l'ampleur du rôle, ça n'a pas de sens.
Il n'y en a peut-être que pour Tom Cruise.
Il n'y en a pas que pour Tom Cruise.
Non, je n'ai pas vu ce film.
Mais bon, il est évidemment, c'est la star.
Il y a une petite histoire des Américains avec l'image qui se donne de la France aussi. On n'est vraiment pas...
Enfin, en tout cas, on peut aussi, par exemple, Lilo et Stitch, qui est le carton plein là du cinéma, qui est sorti exactement à la même date que Mission Impossible. Alors, Lilo et Stitch, quand même, c'est 3 millions, presque 3 millions 600 000 entrées, quoi. Mmh. Et Mission Impossible fait 1 million 8.
Mmh. Justement, rebondir sur ça, on est quand même dans... Enfin, Mission Impossible fait quand même un exploit extraordinaire, c'est resté sur 30 années quand même.
Oui, c'est incroyable.
Ce que d'autres n'ont pas réussi ou se sont essoufflés, moi je pense à Matrix, on voit encore un spin-off Ballerina qui sort, on voit aussi des Star Wars qui se sont essoufflés, des SOS Phantom, enfin voilà. Et ça pose la question aussi des remakes, parce qu'on parle des Lilo et Stitch, etc., qui se refont, ou moi là, tout de suite on a Dragon qui se fait un remake plan pour plan du dessin animé de 2010. La question se pose, c'est à l'heure d'aujourd'hui,
pourquoi
on en est où, quelle est la volonté des spectateurs d'aller voir ces films-là? Est-ce que c'est une espèce de nostalgie? Est-ce que c'est... Des fois, on se demande si c'est pas que pour l'argent, parce que clairement, on peut se poser des questions. Après...
Je pense vraiment que les studios le font que pour l'argent.
Ah oui, ah ben on en est.
Il
n'y
a aucun renouvellement des États-Unis. On a cette petite parenthèse avec The Life of Chuck, donc on va parler après, qui est vraiment un exemple de cinéma américain où c'est très bien que ça change, que ça évolue, que c'est une autre forme de production et ça arrive sur nos écrans par un distributeur indépendant, qui est pas du tout un major. Mais c'est vrai que là, on se dit, et quand on voit ce qui doit sortir entre 2025 et 2026, ce ne sont que des suites. Enfin, le cinéma américain ne sait pas se renouveler. Il se base que sur des choses qui ont marché. Et alors là, Disney, plus encore que n'importe quel autre. Mais ça leur donne raison. Presque 4 millions d'entrées sur un Lilo et Stitch. Quoi faire ? Continuer, quoi.
En plus, merchandising, quoi. On continue dans cette industrie, dans cette vie aussi. Exactement.
Marketing autour, oui.
Allez, un petit peu de poésie. En voyant du Walt Whitman, je suis vaste, je contiens des multitudes. C'est parti.
When you look up at the night sky, it can tell you stuff about your future. It won't lie to you. It's pure that way. You might see a lot more than you wanted. But if you have heart, you have hope. And you have heart in you.
Chuck of Life de Mike Flanagan. Mike Flanagan.
Life of Chuck.
Chuck of Life.
C'est The Chuck of Life.
c'est ça. Mike Flanagan, qu'on connaît par ailleurs pour ses films d'horreur, d'épouvante, ou la série The Haunting of Hill House. Et puis il avait déjà fait la suite de Shining, Doctor Sleep. Il avait adapté un autre roman de Stephen King. Merci, aidez-moi à l'aide.
Il avait fait Jessie aussi.
Jessie,
qui était très bon également.
C'est sa quatrième adaptation d'un Stephen King.
Et donc voilà, qui l'adapte, Stephen King à nouveau. Tu as pris la parole, je te la laisse, Olivier.
Je la garde. C'est un film qui m'a très agréablement et fortement surpris. À cause de son curriculum, à Mike Flanagan, je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi beau et d'aussi riche. Et d'abord, chacun a son regard. Moi, j'ai été frappé par la richesse littéraire du film. Ce film, il est né de la lecture qu'a faite Mike Flanagan d'une nouvelle courte de Stephen King, oui, extraite
ça,
d'un...
très peu de pages, c'est ça.
Oui, oui. Ouais. Et il était en train de préparer une autre adaptation d'un autre ouvrage de Stephen King. Quand il a lu ça, il a appelé Stephen King pour lui dire qu'il voulait faire ça. Stephen King s'est montré dubitatif. Il a dit qu'il faudrait peut-être faire celui qui est en route avant d'attaquer, etc. Bon, peu importe. Il avait vraiment, Mike Flanagan, une très grande envie d'adapter au cinéma cette nouvelle-là. Donc pour des raisons, donc on voit bien, littéraires. C'est un choc littéraire qui produit... qui contribue à produire le film. C'est une première chose. Je suis pas Stephen King, c'est pas ma tasse de thé, loin de là. Enfin, c'est un maître du récit, incontestable. Ça, je veux dire, c'est incontestable. Donc, effectivement, on a un film qui révèle d'abord une très grande maîtrise du récit. C'est-à-dire, on a l'histoire de Chuck, Life of Chuck. On nous ment pas sur le contenu. C'est la vie de Chuck, Kranz. Et simplement, maîtrise de la narration, on commence par la fin. Et on a trois volets. Donc ça commence par l'acte 3, acte 2, acte 1. Et ça bouleverse les habitudes de lecteur et de spectateur déjà. Donc on est un petit peu cueilli comme ça, et puis vas-y, débrouille-toi. Il va falloir que tu comprennes quelque chose qui est, par définition, difficile à comprendre, puisqu'on commence par la fin. Moi qui suis tellement attaché à cette... règle aristotélicienne de un début, un milieu, une fin, ben là, c'est renversé. Et c'est fructueux. C'est extrêmement fructueux. Et puis, on a un doublage littéraire. Tu en as parlé, plus que les allusions. L'omniprésence du grand poème de Walt Whitman, Feuilles d'herbe, et en particulier de son introduction, Chant de moi-même, Song of Myself, qui est un poème extraordinaire. C'est l'épopée américaine, hein, racontée par un Américain. C'est à lire absolument, comme on lit Homer ou comme on lit, je ne sais pas qui, Fernando Pessoa peut-être. Et le poème de Walt Whitman est la clé de compréhension du film. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que notre vie est à la fois minuscule et infiniment vaste. Je suis à la fois un atome et un univers. Et c'est ça que Walt Whitman fait passer dans son grand poème. Je suis rien et je suis tout en même temps. Il y a une très belle scène où sa prof de littérature au jeune collégien lui met une main sur chaque tempe et lui dit « qu'est-ce qu'il y a là-dedans ?» Il dit « mon cerveau ». Non, mais continue, qu'est-ce qu'il y a ? Il dit « il y a les autres ». Oui, et puis il y a tes souvenirs, et puis il y a toutes tes rencontres, il y a toutes tes sensations. Ben, c'est tout ça qu'il y a là-dedans, et c'est tout ça qu'on veut voir à propos de Chuck, justement, qui est un personnage flamboyant. Alors, j'ai trouvé intéressant de... Enfin, j'ai été forcé de noter que Walt Whitman, sur son poème, sur son grand poème « Feuilles d'herbe », il y a travaillé toute sa vie. Et il y a eu, je crois, 8 éditions. Mais il y en a, on pourrait dire, 3 qui sont de ces éditions... Alors évidemment, on retrouve les 3 actes du film et de la nouvelle. Il y en a 3 qui sont marquantes. La première, 1855, c'est une révélation. Puis, il est infirmier et amoureux pendant la guerre de Sécession, et en 67, deuxième édition. Et puis enfin, il y a ce qu'on appelle aux États-Unis la Deathbed Edition, c'est-à-dire la... En 1891, il est mort en 1892. C'est l'édition du lit de mort, hein, Death Bed. Et en particulier, je regardais l'originalité de la deuxième édition. Elle est très marquée par la guerre de Sécession et les horreurs de la guerre de Sécession. Donc, c'est la même chose. Walt Whitman, avec sa triple édition de son grand poème, sert encore plus de clés à la compréhension des 3 moments de la vie de Chuck. Et c'est vraiment... Alors, quand on passe au cinéma, cette richesse littéraire, elle est rendue par l'utilisation de plusieurs genres cinématographiques. On a le film fantastique, on a un peu le film d'horreur, on a un peu le film de science-fiction, on a un petit peu la comédie musicale, on a même ça, magnifique, scène extraordinaire de comédie musicale. On a une comédie romantique à cause de l'histoire du gamin, presque un college movie là, enfin,
movie.
Ouais, voilà, oui. Et on a la comédie dramatique en même temps, et je pense que le fait d'avoir aussi adroitement jonglé avec tous ces genres cinématographiques lui permet de ne jamais tomber dans la caricature d'un de ceux-là. C'est-à-dire au moment où ça pourrait devenir le film fantastique, un peu lourdingue, un peu caricatural, quand il monte dans la pièce où il y a des fantômes, enfin, etc. Mais ça n'a pas le temps de prendre une allure caricaturale, à mon sens. De même que la scène de comédie musicale n'est pas caricaturale, alors qu'elle a tous les éléments pour l'être. Non, je pense qu'elle communique surtout la joie et puis l'envie de danser, et de chanter et de jouer de la batterie, comme... Taylor Gordon, il fallait que je parle de Taylor Gordon, Pocket Queen, la batteuse qui est dans le, voilà, qui est une personne qui a beaucoup de succès sur les réseaux sociaux aussi, enfin, etc. Donc, il y a, c'est pour ça qu'on a cette richesse littéraire et cinématographique, et je pense, en évitant la caricature, et donc, du coup, on a une espèce de festin cinématographique assez extraordinaire.
Ce serait la brièveté des scènes
Le montage, la qualité du montage, parce que la scène de danse, elle est longue, hein, elle fait 5 minutes.
Alexis.
Mais je dirais que ce film, déjà, bon, ce film anti-chronologique, on va dire ça comme ça, en fait, moi je l'ai considéré un peu comme un jeu de piste aussi, c'est-à-dire que le spectateur, lui, il va aller chercher des infos qu'il a besoin au fur et à mesure, et ça va nous donner les clés un petit peu de la vie de Chuck, de pourquoi il en est arrivé là. Et moi, cette première partie, par exemple, m'a fait penser, et je sais pas pourquoi, tout de suite, enfin si, je sais pourquoi, à la dernière scène, enfin à une des scènes de Mélancolia du film de Lars von Trier, qui m'avait marqué à l'époque. J'ai senti tout de suite un parallèle, et j'ai aussi senti du Steven Spielberg à l'intérieur, forcément avec ce côté fantastique.
Et puis l'enfant.
Et l'enfant, complètement, complètement. Et c'est vrai que ce film-là, donc, on le voit à travers ces trois, on en parlait tout à l'heure en off, avec ces changements de format qui, on parle de multitude également, donc plus, enfin, moi je l'ai pris aussi comme ça, c'est que plus on avance dans la vie, plus on agrandit cette multitude, et plus on devient enfant, et plus elle se rétrécit, parce qu'on a moins de connaissances également. Enfin, moi je l'ai pris aussi comme ça, mais il y a différentes façons de le prendre, hein, sur ce changement de format. Et ce que j'ai trouvé, enfin, ce que j'ai aimé dans ce film-là, c'est que ça invite à sur nos petites vies à nous, d'aller poser, entre guillemets, sa valise, et d'aller dire, allez, je prends une pause, et en fait, je danse, je fais du sport, voilà, ça invite à se poser dans cette vie effrénée, et je dirais que le message de ce film aussi, c'est dans ces petites vies qu'on a nous, en fait, on rêve tous de faire quelque chose. C'est un film de modestie qui dans les vies qu'on a à peu près tous, dans ces trois quarts de film, dans les trois quarts de ce film là, c'est on rêve tous d'avoir peut-être du succès, on rêve tous d'être Tom Cruise, exactement. Et en fait, la plupart des gens font des métiers peut-être qui leur plaisent, mais des petits métiers qui peuvent servir aux gens, mais qui, parce que comme on le voit, comptable est essentiel, on le voit bien, et Mark Hamill le dit bien dans le film.
Les pompes funèbres aussi.
Exactement, les pompes funèbres aussi. Et c'est des métiers qui sont à petite échelle, ne sont pas, on va dire, qui n'ont pas de succès auprès des gens, mais qui sont...
Ni des réseaux sociaux,
mais qui sont à l'essentiel de la vie de chacun. Et voilà.
D'ailleurs, c'est marrant, je me suis posé la question. Il y a, notamment dans la première partie, cette forme de... Alors moi, j'ai beaucoup aimé... Enfin, je te donne la parole, pas pour ça, mais la première partie, elle est assez étonnante, je trouve. C'est un anti-film catastrophe, alors qu'on sent que quelque chose se passe, il est en train de se passer quelque chose, et c'est à la fois, je sais pas si c'est doux, il y a une tension, mais c'est pas du tout dans un rythme, les rues sont...
C'est dans un compte à rebours à l'Interstellar,
ouais,
c'était très...
Les rues sont... C'est presque fixe, en fait.
En fait, c'est pour reprendre le terme d'Alexis, on a une apocalypse humble.
Exactement.
C'est ça, ouais.
C'est extraordinaire. C'est...
Mais non moins flippante.
Oui, oui,
elle est d'autant plus. Enfin, elle est d'autant plus, d'ailleurs. Et puis d'autant plus qu'il y a un seul élément qui est vraiment qui dénote, c'est la pub. Pour Chuck,
ouais.
et c'est ça, et voilà, c'est et on bien se bien pose bien. La question. Mais oui, je me demandais si, enfin, comment dire, Stephen King, il a publié, alors je ne sais pas s'il a écrit, je pense qu'il a écrit bien avant, mais le Covid, parce qu'il y a quelque chose presque du Covid, tu parlais de ce qu'on met en valeur, ces petites vies humbles, silence.
Oui, oui, mais il a adapté pendant, justement, il a lu, je crois, la nouvelle COVID, pendant le Covid, et il a travaillé sur le film pendant le Covid.
Donc, puis on est servi en catastrophe naturelle, ça va. On a l'embarras du choix. Aujourd'hui, on a notre atmosphère envahie par les fumées des grands feux du Canada. Donc, on est vraiment dans l'ambiance qu'il faut pour voir ce film. Je pense que là, il n'y a pas de souci.
Cathy, est-ce que tu...
Moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je rejoins tout le monde sur la qualité camarades. Du film. Mes petits camarades, voilà. Et parler du casting, peut-être, parce que c'est vrai que Tom Hiddleston est vraiment formidable dans le film, et c'est vrai qu'on l'a vu plutôt sur des blockbusters, enfin bon, peut-être des films un peu en marge, mais c'est vrai qu'on l'a beaucoup raccordé à son personnage de Loki
Soit dans la série Loki, ou alors dans les films Marvel, Thor, etc.
Voilà, je cherchais le nom, mais c'est moins
super,
ma thèse de.
Il est
rayonnant et solaire là. Avec c'est vrai que cette scène de danse, elle est incroyable. Donc c'est vrai que c'est un film qui fait beaucoup réfléchir et en même temps qui nous incite à nous poser. Donc c'est ce paradoxe-là que j'aime bien.
Moi, ça me fait penser à. Enfin, il y a une musique de Ben Mazuet qui s'appelle, je crois, J'attends. Et on pose ses valises, on arrête la vie, on arrête tout ce qui nous. On arrête de courir en fait. On arrête de courir, on se pose et on va marcher, par exemple. Et rien que ça, c'est d'aller souffler et de voir ce qui se passe autour de nous. Et je pense que ce film nous donne des vibrations. Enfin, moi, en tout cas, il m'a fait vibrer dans la... Enfin, pas dans la salle, pour le coup, mais il fait vibrer en salle. Et on prend le temps de... C'est pas un de ces films où on est tout de suite toujours dans l'intensité. Je dirais que c'est une intensité complètement différente où on va être dans l'attente, on va être dans la contemplation.
Il y a un élément, je pense, qui souligne cette humilité. Donc c'est catastrophe naturelle sur catastrophe naturelle. Il n'y a plus de réseau, plus d'électricité, plus enfin, tremblement de terre, volcan en Allemagne. Enfin, c'est la catastrophe. Et le héros de la première partie, il dit that sucks, ça craint, that sucks. Passons les traductions, mais that sucks. Et elle dit c'est quasiment la fin du monde et tout ce que tu trouves à dire, c'est ça craint, ouais. Quoi. Et c'est ça. On est ramené à dire bon, de là où je suis, de toute façon, c'est pas plus que ça craint. Donc il faut, comme tu dis, que je me pose et puis que je réfléchisse à ce que j'ai fait, à ce qui me reste à faire, et voilà quoi. Et c'est, moi je trouve que c'est un film qui contraste avec beaucoup de films idiots là qu'on nous sert.
Ça, et la distribution par un distributeur indépendant qui est vraiment complètement en marge sur ce type de proposition à la base. Et donc c'est très très bien que nous on ait pris l'initiative, c'est une très bonne idée de distribuer le film en France.
Il n'empêche qu'il y a quand même un petit bémol, peut-être la musique quand même qui est un peu larmoyante tout le temps, peut-être en tout cas... Moi, ça m'a gêné.
Ouais, peut-être qu'il est peut-être trop intense parfois par rapport au sujet. Enfin, la première partie me paraît légitime. Après, peut-être que pour le reste, elle est peut-être trop. Peut-être.
Mais voilà. Mais allons le voir. Il est au Benat et bientôt au Vence. Un autre film. Alors, on parlait des vies minuscules. En voilà d'autres.
Quand est-ce qu'on verra ta mère?
Je sais pas.
Il faut pas rêver qu'un bébé va tout arranger. Je crois que c'est Noé qui pleure. Tu vas le chercher?
Moi aussi, je pleure. J'ai décidé que j'allais placer Lily en famille d'accueil.
Qu'est-ce que cette connasse de psy t'a encore fourré dans le crâne? Dans ta maison maternelle de merde.
Si vous avez la chambre d'enfant, avec une vue sur la Meuse...
Elle pourra voir les bateaux.
Notre premier appartement!
On s'en sort ?
On s'en sort.
Jeune mère de Jean-Pierre et Luc Dardenne, avec Babette Verbeek, Elsa Houben, Janaïna Aloy Focan.
Et oui, que des jeunes acteurs qui ne sont pas connus, hein, qui ont été castés justement souvent en tant que premier rôle, enfin en tant que c'est leur premier rôle en règle générale. Alors c'est tous des acteurs, donc jeune mère déjà, bon je vais dire l'histoire un petit peu. Jeune mère, on suit des femmes en maison maternelle, donc c'est-à-dire une maison maternelle, ça accueille des femmes en difficulté qui ont des font naître des enfants, on va dire, très jeunes. Ces femmes-là ont entre 16 et 17 ans, qui sont généralement mineures, qui ne sont généralement pas accompagnées du papa, parce que le papa, qui est âgé du même âge souvent, préfère s'en aller préférer être absent et ne pas prendre ses responsabilités. Et donc en fait on se retrouve sur des femmes qui ne savent pas comment faire à 16 ans, comment on élève un enfant, c'est la bonne question, déjà que des fois à 25 ou 30 on ne sait pas, alors à 16 on n'a pas forcément la maturité pour, et en plus c'est des femmes qui viennent de catégories sociales qui sont très difficiles. On suit donc le destin de 4 à 5 femmes qui ont tous des destins un peu larmoyants, donc des anciens junkies, on a aussi des filles battues, on a d'autres femmes qui ont des vies assez difficiles, et donc on suit ces 4 destins de femmes qui vont on va les suivre en fait vraiment à hauteur de caméra, de très près, filmé comme un documentaire en fait, où on va suivre ces femmes qui vont élever donc leurs filles dans cette maison maternelle là, et qui vont au fur et à mesure accompagner les premiers gestes de la naissance, donc comment on donne le biberon, comment on le change, etc. Et en fait, on s'arrête à ces personnages. Le pourquoi, c'est aussi de savoir qu'est-ce qui se passe dans ces maisons maternelles, quelles sont les difficultés auxquelles elles font face. Alors, pour moi, ce film, il est nécessaire, mais je l'aurais peut-être plus vu en documentaire qu'en fiction, clairement. Pour moi, le prix du scénario... il n'est pas forcément nécessaire non plus. Je pense qu'on a voulu filer une palme aux Dardennes pour... je sais pas pourquoi. Ils en ont que deux. Je pense qu'on aurait pu laisser encore à quelqu'un d'autre. Bon, ça, c'est mon avis personnel. Je pense que le film... Moi, j'ai trouvé le film très intéressant. Honnêtement, il m'a surpris. J'ai quand même été embarqué par le film. Après, en donner la palme d'or... Enfin, le scénario de la palme d'or...
Les frères Dardennes, c'est la bonne conscience du Festival de Cannes.
Ouais, exactement.
Comme il nous reste 2 minutes, mais on n'a plus le temps.
Juste, c'est un très bon film, il faut aller le voir quand même, mais pour moi, c'était mieux un documentaire qu'une fiction. Voilà.
Merci. Et il est à voir dans plein d'endroits, Aubenas, Vals, Lévance, bientôt à Ruons et à Rosières. On termine avec un film qui est 10 fois moins distribué que Mission Impossible. C'est Oli, on ne passe pas la bande-annonce, tu nous en dis un mot.
Oui, Oli, c'est un premier film du réalisateur Antoine Besse qui raconte l'histoire de Pierre, qui est un adolescent, qui revient vivre suite au décès de sa mère chez son père, donc qui est agriculteur. Il est harcelé à l'école, donc il se réfugie dans le skateboard, voilà. Et en face de lui, il va rencontrer un marginal, Bertrand, qui va un peu le prendre sous son aile. Ça met un petit peu de temps à se mettre en place, mais c'est un peu l'idée. Et ensemble, ils vont essayer de passer à autre chose et un peu se reconstruire. Donc, pardon, c'est un premier film qui a les défauts d'un premier film, hein, sur des fois des sujets un peu trop étirés ou pas assez. Enfin, voilà, donc c'est pas forcément très équilibré. Les qualités quand même qu'il a, c'est que justement ça fait partie de ces films un petit peu comme Vin Dieu et La Pampa, je sais pas si ça a été si vous avez parlé de La Pampa à ce micro, en tout cas. c'est voilà, des films qui sortent de Paris, qui sortent un peu sur le regard parisien, qui viennent en campagne raconter des anti-héros, quoi, des gens qui vivent qui ont des des trucs bien et moins bien dans leur vie, et puis qui, ça raconte quand même une histoire de deux personnes qui vont s'entraider, et c'est un peu les qualités quand même du film, et ça fait partie de cette jeune génération de réal et d'histoire et de façon de produire des films et de les distribuer, parce que Wena Peach, c'est pareil, c'est un jeune distributeur qui mise quand même pas mal sur les ados, et cette envie de produire de distribuer des films à l'attention des 15-25 dont on a plusieurs fois parlé à ce micro, ce public, ce renouvellement des publics.
C'est la bonne conscience des distributeurs.
Voilà, c'est ça. Et des exploitants, bien sûr. Mais en tout cas, c'est très important. Et c'est vrai que ce sont des regards un peu différents sur le cinéma et sur la façon dont on raconte des histoires. Donc c'est chouette.
Oli, qui est à voir à Rosières, eh ben, merci beaucoup tous les trois d'être venus nous parler de tous ces films. On se retrouve vendredi prochain. Et vendredi prochain, ce sera le dernier Cinémascope de la saison. Ciao.
Ah, ciao.